Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo les spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro. Bon début d'après-midi. On vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé sur Canal M. Aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, je reçois mon nutritionniste Bernard Lavallée, grand ami, grand habitué de l'émission, qui sera là pour nous parler des fruits et des légumes. Et oui, vous le savez, c'est important d'en manger, on le répète souvent ici. Mais saviez-vous qu'ils ne sont pas tous égaux devant les pesticides? En fait, 12 fruits et légumes ont été considérés champions des pesticides d'après une inspection de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et la USDA, dont, entre autres, la laitue frisée, les fraises, le céleri, les pommes. Donc, vous voyez des fruits et des légumes que l'on consomme souvent, beaucoup. Est-ce qu'il faudrait éviter d'en manger ou les acheter bio absolument? Si le portefeuille, bien sûr, le permet, on en parle tout à l'heure avec Bernard Lavallée. Et puis, l'été s'en vient et pour plusieurs parents, c'est le temps d'inscrire les enfants dans un camp de vacances ou un camp de deux jours. Quand notre enfant a un besoin particulier, ça peut être une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, une déficience physique aussi, sachez que c'est aussi possible de le faire. Il y a plusieurs camps certifiés qui le proposent, qui se spécialisent dans l'accueil pour ces enfants-là. Et j'en parle avec Chloé Melançon-Beauséjour, elle qui est coordonnatrice aux communications pour l'Association des camps du Québec. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Alors, à l'association, vous avez une formule qui est plutôt inclusive, qui est « il y a un camp pour tout le monde ». Et ça, ben, ça a quelque chose d'assez merveilleux pour ces enfants, pour les familles également. Pour les parents un petit peu plus insécures, peut-être moins habitués à cette formule, comment on peut les guider à trouver le meilleur camp pour leurs enfants qui vivent avec des besoins particuliers?
La première étape, je dirais, pour les parents, c'est déterminer quels sont leurs besoins. Est-ce qu'ils ont besoin d'un camp de jour? Est-ce qu'ils ont besoin d'un camp de vacances? Est-ce qu'ils ont besoin d'un répit? Est-ce que c'est pour un enfant qui a des besoins très précis, qui a besoin d'encadrement très resserré, pour lequel on préfère un camp qui est vraiment spécialisé ou on préfère qu'il soit intégré dans un camp régulier, dans un groupe avec d'autres enfants de son âge? Donc, il faut un peu établir nos besoins, voir qu'est-ce qui nous convient le mieux ainsi qu'à notre enfant. Puis ensuite, nous, on a toutes sortes d'outils pour vous aider à faire votre choix, à trouver le camp qui conviendrait le mieux. On a un magazine qui fait la liste de tous les camps certifiés au Québec. On a aussi un moteur de recherche super performant sur notre site web. Puis on peut aussi nous appeler ou nous envoyer un courriel pour qu'on puisse vous aider là, de manière personnalisée à trouver le camp qui convient le mieux à vos besoins.
Donc, vous êtes là pour guider les parents. C'est votre rôle à l'association. Et vous nous dites que c'est les premières questions à se poser en tant que parent. Est-ce qu'il peut être bien, s'il est possible, bien sûr, d'en parler avec notre enfant, de voir un petit peu ses goûts, ses intérêts?
Ben oui, absolument, parce que c'est les différents camps ont des offres d'activités qui sont différentes. On a des camps qui sont spécialisés en art, par exemple. On a des camps qui sont spécialisés plus dans les activités sportives. On a des camps qui sont touche à tout. Si on a un enfant qui a des intérêts spécifiques ou qui aimerait faire une variété d'activités différentes, on peut y aller pour le camp qui offre le profil qui lui convient le mieux. On peut aussi voir si l'enfant préfère être avec des enfants qui ont des besoins similaires aux siens ou s'il préfère être en mélangé, donc avec toutes sortes d'enfants qui ont des besoins différents des siens ou même juste en groupe régulier.
Lorsque l'on parle de besoins particuliers, on brosse un tableau qui est assez large. Et puis, je regardais votre offre, Chloé, ça va autant de déficiences intellectuelles, auditives, visuelles, jusqu'à des campeurs LGBT, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Donc, nous, on a une nouvelle... On inaugure la semaine prochaine, on va lancer une nouvelle plateforme sur notre site web pour faciliter l'intégration des campeurs qui ont des besoins particuliers en camp. Donc, ça inclut, bien sûr, des campeurs qui ont des déficiences physiques, des campeurs qui ont des déficiences intellectuelles, mais aussi des campeurs qui sont un cas un petit peu différent avec lesquels les camps ne peuvent pas nécessairement savoir comment traiter ces cas-là, comment réagir de la meilleure manière possible. On parle, entre autres, si on a un campeur qui s'affiche LGBT, quelles sont les meilleures manières d'interagir avec l'enfant pour que son inclusion se fasse le mieux possible dans le groupe. Nous, on va offrir des fiches pour toutes sortes de types de besoins. On parle même de maladies comme l'épilepsie, de handicap, on parle de...
Troubles de langage.
Troubles de langage, c'est très, très vague. Un enfant qui est sur le spectre de l'autisme, on va avoir une petite fiche qui décrit dans le fond, la condition de l'enfant, puis c'est quoi les pistes d'intervention avec lui, quoi faire pour l'aider à s'intégrer, pour qu'il se sente bien dans le groupe, puis quoi faire aussi pour l'amener à participer puis le mieux possible.
Qu'est-ce qui distingue, Chloé, ces camps certifiés pour les enfants à besoins particuliers? Est-ce qu'il y a des professionnels de la santé sur place, par exemple?
Ça dépend vraiment du type de camp. Certains, par exemple, sont des camps qui traitent des cas plus médicaux, comme par exemple, on a un camp qui est destiné aux diabétiques. Donc, c'est certain que le personnel qui est là sur place est apte à s'occuper d'une clientèle qui a ces besoins-là. D'autres, par exemple, pourraient être spécialisés avec des gens qui sont éducateurs spécialisés pour des cas plus comme des enfants qui sont sur le trouble, qui sont sur le spectre de l'autisme ou qui ont des difficultés d'apprentissage. Il y en a d'autres que c'est plus en formule camp de vacances, donc il va y avoir des infirmiers sur place, mais c'est pas tout le personnel là, nécessairement qui est médical. Là. C'est pas des hôpitaux, c'est des camps.
Et bien sûr, oui, bien sûr, et l'enfant est là pour s'amuser, bien sûr,
oui,
Chloé, on le saisit bien, tout ça. Bon, est-ce que l'on parle, parce qu'on parle d'enfants à besoins particuliers, bien sûr, on le disait précédemment, les besoins sont vastes. Si on vit avec le diabète ou si on vit avec une déficience physique, bien sûr, c'est très différent.
Oui.
Et lorsque l'on pense à camp de jour, camp de vacances pour les enfants, on pense à s'amuser, on le dit aussi. Donc, activités sportives, est-ce qu'elles sont adaptées, ces activités-là?
Selon la nature des besoins particuliers, c'est sûr que c'est différent. Un enfant qui a une déficience visuelle ou une personne qui est en chaise roulante, les besoins sont pas pareils, mais les camps offrent des activités adaptées. On a par exemple un camp où c'est possible de faire du ski nautique adapté, donc qu'il y a des genres de sièges pour pouvoir faire du ski nautique, même des personnes qui sont en chaise roulante. L'éventail d'activité est trop large pour que je puisse énumérer toutes les possibilités, mais vraiment, là, pour tous les types de besoins, dans les camps qui sont spécialisés, on s'assure que les enfants puissent participer autant que possible dans la mesure de leur capacité, puis que les activités puissent être adaptées à eux, pour qu'ils puissent participer, puis que ça reste des espaces de réussite.
Mm-hmm. Oui, parce qu'il y a tout le développement de l'estime de soi aussi.
Oui, absolument. C'est les camps pour tous les enfants, qui ont des besoins particuliers ou non, c'est des endroits où on les incite à participer à des nouvelles activités, essayer des nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes, puis on veut que ça soit une expérience positive qui les fait grandir. Donc, l'idée, c'est qu'ils puissent réussir, que ça se passe le mieux possible, puis que ça se passe dans le plaisir.
Et tout ça dans des environnements qui sont adaptés.
Oui, c'est ça.
Oui. Bon, maintenant, ce serait intéressant de vous entendre parler de cette trousse, une trousse qui sortira, qui sera lancée le 22 avril prochain, qui s'intitule « Pour une intégration réussie ». Et là, vous visez quand même quelque chose de différent. Oui, les enfants ont besoin particuliers, mais pourquoi ne pas les intégrer dans des camps que l'on appelle réguliers?
C'est ça. Certains parents, que ce soit parce qu'ils veulent envoyer leur enfant, par exemple, au camp de jour de leur municipalité, qui n'est pas un camp spécialisé dans l'accueil, par exemple, d'enfants qui ont un trouble d'apprentissage, mais qui veulent que leur enfant aille là, soit parce qu'il n'y a pas d'autres camps de jour près de chez eux, ou parce que c'est l'aspect le plus pratique. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est outiller tant les parents que les camps pour que l'intégration se fasse le mieux possible. Ça peut être pour des raisons... des raisons pratiques, là, qu'il n'y a pas d'autres camps proches. Ça peut être des raisons qu'il n'y a pas de camp de jour spécialisé, par exemple, dans l'accueil d'une clientèle en particulier, seulement des camps de vacances, puis notre enfant n'est pas prêt à partir en camp de vacances tout de suite. Nous, on veut s'assurer que les parents aient toute l'information avec eux sur comment traiter avec le camp pour transmettre l'information au sujet de leur enfant, puis comment le camp doit traiter avec les parents pour s'assurer qu'il y ait toute l'information possible, puis aussi que le personnel soit bien formé pour pouvoir traiter du cas de l'enfant, puis ensuite s'assurer qu'il fasse... Qui vivent un bon séjour puis que son intégration se fasse le mieux possible.
Mais c'est une nouvelle initiative, Chloé, donc ça ne se faisait pas ça avant?
Non, certains organismes le faisaient de manière isolée, comme des services de loisirs de ville pour avoir des directives, par exemple pour l'intégration d'un enfant qui a une déficience physique, par exemple, mais à l'échelle de la province, non, ça n'existait pas. Donc, on s'est joint avec plusieurs organismes spécialisés. Nous, on ne s'est pas improvisé experts, on est allé chercher des experts pour avoir l'information, puis on met ça va être disponible gratuitement sur notre site web. Pour notre site web, tant pour les camps certifiés que les autres camps, s'ils veulent y avoir accès, c'est disponible aussi.
À partir du 22 avril, qu'est-ce que vous pensez, parce que bon, cette initiative-là elle vient d'un désir au départ, qu'est-ce que vous pensez que ça va amener à ces jeunes-là qui vivent avec différents défis au quotidien d'être intégrés dans des camps dits réguliers avec des enfants qui, eux, ne vivent pas avec ces besoins-là?
Je pense que ça fait une avancée pour l'ouverture d'esprit. Beaucoup des enfants qui ne sont pas habitués à ça, tant pour les enfants que pour le personnel des camps, je pense, d'apprendre à travailler à vivre avec des gens qui sont un peu différents, mais qui restent des gens, des personnes, qui ont des besoins, des envies, qui ont des goûts, qui ont des talents, qui sont là, puis que si on n'est jamais en contact avec eux, on les connaît pas, puis ça peut être un peu épeurant parce que c'est la différence, on connaît pas. Tandis que quand on est en contact avec eux depuis un jeune âge, puis qu'on voit que on peut devenir amis avec eux, on peut faire des activités avec eux qui peuvent nous apporter quelque chose, puis tant pour eux aussi que ces enfants-là en bénéficient aussi, là, ils sont pas juste là pour ouvrir l'esprit des autres, eux aussi vont pouvoir profiter des activités, puis être dans un espace où ils sont acceptés, où ils sont les bienvenus, on trouve que tout le monde en sort gagnant.
Oui, et je pense inévitablement aux parents aussi qui sont gagnants. Et on le disait tout à l'heure, des fois, un camp de jour ou un camp de vacances pour une famille, ça peut devenir même un répit, un espace-temps où l'enfant est encadré avec des professionnels, il s'amuse avec des amis et où le papa, la maman peut souffler un peu. Et bien sûr, comme vous le disiez, quand des fois on est en région éloignée et qu'il n'y a pas ce genre de service-là, ça peut vraiment être d'une grande aide là, de pouvoir intégrer notre enfant dans un autre type de camp.
Oui, absolument. Si on a des enfants, par exemple, des enfants multi-handicapés qui requièrent un suivi de très près de la part des parents, que c'est presque comme un deuxième travail parce qu'on peut employer à faire ça, mais c'est aussi demandant en termes de temps. Parfois, ils ont besoin de souffler aussi, puis pour l'enfant, ça fait du bien de sortir du contexte de la maison puis d'aller voir ailleurs un peu, de découvrir des nouveaux milieux, d'autres régions du Québec, de rencontrer des nouvelles personnes. Puis ça fait du bien de prendre une petite pause puis ensuite pouvoir sortir énergisé puis se retrouver en famille, puis tout le monde est heureux au bout du compte.
Oui, tout le monde est plus reposé.
Reposé, c'est ça.
Du côté de l'Association des camps du Québec, il y en a combien, par curiosité, Chloé?
Des camps spécialisés?
Certifiés, oui.
Des camps certifiés, on parle de 174 sites de camps. Donc, il y a certains camps qui opèrent plus d'un site, mais 174 sites de camps.
Et là-dessus, les camps spécialisés, est-ce que vous le savez?
Il y en a environ 25, je crois.
OK, quand même. Et ça, partout, et je reviens avec les camps spécialisés, est-ce qu'il y en a partout au Québec où, justement, certaines régions sont peut-être un petit peu moins bien desservies?
On n'en a pas dans toutes les régions du Québec. On en a dans la majorité des régions. La majorité, c'est certain que c'est dans la Naudière, les Laurentides, le Grand Montréal. Mais on en a aussi en Abitibi-Témiscamingue, au Bas-Saint-Laurent, dans les cantons de l'Est, on en a près de Québec, on en a dans les Chaudières-Appalaches, on en a plusieurs.
Et peut-être qu'avec cette nouvelle initiative que vous lancerez le 22 avril pour une intégration réussie, il y a des camps qui étaient à la base à destination, pas à destination, mais plutôt dit réguliers, là, des camps réguliers, oui, qui auront envie de se spécialiser et d'élargir leur éventail de services et d'offres pour ces enfants en besoins particuliers.
Absolument, peut-être en voyant que l'intégration peut bien se faire, qu'ils sont capables, une fois bien outillés, qu'ils sont capables de le faire, pourquoi ne pas s'afficher comme étant un camp qui a un programme pour, par exemple, les enfants TED. Nous, on voit grand, on ouvre la porte puis on va voir comment ça va arriver, mais on aimerait qu'idéalement, tous les enfants puissent trouver une place dans le camp de leur choix, peu importe leurs besoins.
On le disait en ouverture d'entrevue, un camp pour tout le monde, c'est un peu la formule du côté de l'Association des camps du Québec. Pour les budgets, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y en a pour tous les budgets?
Pour les budgets, quand on parle de camp de jour, un camp certifié, ça commence autour de 100 $ environ la semaine. Les prix peuvent varier pas mal. Quand on parle de camp de jour municipaux, souvent c'est un peu moins cher aussi parce que la municipalité offre du financement. En camp de vacances, ça commence généralement autour de 300-350 $ la semaine. Les programmes, les prix varient beaucoup selon le type d'activité offerte. Par exemple, un camp d'équitation va coûter plus cher qu'un camp de jour qui est dans les locaux de l'école primaire du quartier, par exemple. Peu importe le type de camp, il y a beaucoup de nos camps qui offrent des programmes d'accessibilité financière pour les familles qui ont des besoins, qui ont des revenus plus restreints. Donc, ça permet de sur une base individuelle, dans le fond, entre le camp et la famille, de voir selon le revenu, est-ce qu'on peut donner un rabais à la famille, est-ce qu'on peut offrir le séjour même gratuitement dans certains cas pour que les camps puissent être accessibles à tous.
Et le parent, il fait comment pour être au courant de ces informations-là?
Sur notre site web et dans notre magazine, ces camps-là sont identifiés en un petit signe de dollar avec la mention accessibilité financière. Puis ensuite, une fois qu'on sait cette information-là, on peut appeler les camps pour leur demander. Ça se fait sur une base individuelle. Ça, c'est pour les camps certifiés. Sinon, ça vaut la peine d'essayer. C'est un camp qui est non certifié aussi, d'appeler puis de demander s'ils ont des services similaires. Il y a des programmes avec le gouvernement là, pour faciliter l'accès aux camps pour les familles avec des revenus restreints.
Camp.qc.ca. En terminant, Chloé, est-ce que c'est le bon temps maintenant d'inscrire notre enfant à un camp de jour ou un camp de vacances?
Oui, entre février puis l'été, c'est toujours le temps de s'inscrire. Évidemment, on recommande aux gens de se dépêcher s'ils veulent avoir une place à un moment précis dans l'été, mais même au cours de l'été, souvent, il est possible de s'inscrire.
Ah donc, oui, c'est encore le temps. Et février, c'est tôt encore, les deux pieds dans la neige, puis on pense aux planifications estivales.
Il y en a qui ont hâte à l'été.
Oui, certainement. Et nous aussi, Chloé Melançon, Beau Séjour, vous êtes coordonnatrice aux communications pour l'Association des camps du Québec. Merci beaucoup. Et puis, on surveillera ça, le lancement de cette trousse pour une intégration réussie dès le 22 avril. Ça sera, j'imagine, disponible sur votre site.
Oui, absolument.
Merci. Un très bel été à vous.
Merci, au plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @canal_m.
Bonjour Bernard Lavallée.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste et on est là pour parler de cette fameuse liste des fruits et légumes champions des pesticides. J'en parlais tout à l'heure, ce sont des fruits et des légumes que l'on retrouve énormément dans notre frigo, habituellement. Et puis, et on l'apprenait dans votre livre « Sauver la planète une bouchée à la fois », Bernard, l'utilisation des pesticides et des insecticides, c'est très répandu dans l'agriculture traditionnelle. Et la preuve, c'est qu'on retrouve des résidus de pesticides dans l'urine de 90 % des Canadiens. C'est quoi l'impact sur notre santé?
Mais en fait, c'est assez difficile à prouver, je vous dirais, de l'impact des pesticides parce que on a de la difficulté à le prouver dans les études aux petites doses qui sont consommées par les consommateurs. Et on croit donc que ça n'a pas tant d'impact parce qu'on consomme seulement des petites quantité. Mm-hmm. Ceci étant dit, c'est prouvé que plusieurs pesticides et insecticides, etc., qui sont utilisés dans la culture des fruits et des légumes ont un impact sur la santé des agriculteurs. Et les agriculteurs, eux, sont exposés à des doses beaucoup plus massives de ces produits-là, et c'est associé à différents problèmes de santé, qu'on pense au Parkinson, par exemple, qu'on pense à divers problèmes, des malformations congénitales, des problèmes neurologiques, des cancers. Donc, on sait qu'à grande dose, ces produits-là, oui, sont toxiques pour l'être humain. Cependant, quand on les consomme dans les aliments, il n'y a pas de preuve pour le moment que ça peut avoir un impact sur la santé.
Donc, si je comprends bien, de les manger serait moins dramatique que de les respirer ou que notre peau soit en contact avec.
Pas nécessairement. En fait, c'est vraiment une question de quantité. C'est-à-dire que ça soit, peu importe que ça passe à travers la peau, que ça passe à travers les poumons ou parce qu'on les a mangés, c'est pas nécessairement ça qui va les rendre plus toxiques. Quoique oui, ça peut avoir des différences sur l'impact sur notre santé, mais c'est vraiment une question de quantité. C'est-à-dire que les agriculteurs travaillent quotidiennement avec ces produits, mm-hmm. donc sont en contact tous les jours avec, et donc avec des doses qui sont massives de ces produits-là, et c'est là qu'on voit qu'il y a des problèmes qui surviennent.
Et aussi, ces pesticides, eh bien, on les élimine dans notre urine, notamment, mm-hmm. mais bon, elles traversent quand même nos organes, bon, elles sont quand même en contact avec nous. Donc, lorsque l'on parle de, plus susceptible d'avoir un enfant qui vit avec un TDAH ou avec l'autisme, c'est un peu encore, si je vous entends bien, Bernard, un peu du n'importe quoi.
Encore une fois, c'est une question de quantité. Puis encore une fois, on parle vraiment ces problèmes qui sont associés à l'utilisation des pesticides, c'est vraiment dans des doses massives chez des agriculteurs ou des gens, et ça c'est quand même important, des gens qui habitent en région rurale et qui habitent près de ces champs-là et qui donc peuvent être exposés aux pesticides parce que bien sûr on les épand donc dans l'air, et donc c'est certain que quand il y a du vent, ça peut se répandre quand même aux alentours, et on se rend compte que des personnes qui habitent près de fermes peuvent se retrouver avec ce même genre de problème.
Je reviens à cette fameuse liste des 12 fruits et légumes champions des pesticides, celle qu'on appelle de Dirty Dozen. Bernard, laitue frisée, pommes de terre, fraises, bleuets, ce sont des fruits et des légumes que l'on consomme beaucoup.
Bien, c'est certain que oui, ce sont tous des fruits et des légumes qu'on consomme régulièrement et qu'on est habitué de manger. Ceci étant dit, même si ce sont des produits qui contiennent beaucoup plus de pesticides, ça ne veut pas dire qu'ils sont nocifs pour la santé pour autant. Et même au contraire, je vous dirais, c'est prouvé que manger des fruits et des légumes, c'est bon pour la santé. Je pense que tout le monde le sait. Et donc, même de manger ces fruits et ces légumes-là, même s'ils contiennent des pesticides, les fruits et les légumes, eux, contiennent beaucoup d'autres molécules et beaucoup d'autres nutriments qui ont des bienfaits sur la santé qui sont prouvés. Et donc, les bénéfices des fruits et des légumes surpassent largement les risques potentiels de consommer des pesticides.
Donc, il n'y a pas lieu de les éliminer de notre alimentation ou de les remplacer par d'autres fruits et légumes.
Ce n'est pas nécessaire de les remplacer, mais c'est certain qu'il y a des gens qui peuvent tout de même décider, qui veulent diminuer leur ingestion de pesticides. Et avec cette liste-là, je pense que c'est facile de le faire et de justement se dire, j'ai peut-être pas l'argent pour acheter tout mes aliments de façon biologique, mais ce que je peux faire, c'est acheter, par exemple, ceux qui sont dans cette liste-là. Donc, par exemple, mes pommes, je peux décider d'acheter mes pommes biologiques. Et je sais qu'en faisant ce geste-là, je vais diminuer de beaucoup ma consommation de pesticides. Mm-hmm. Et donc, et je n'ai pas besoin d'acheter tous mes aliments dans leur version biologique.
Oui. Si le portefeuille ne le permet pas pour différentes raisons. Parfois aussi, c'est une épicerie pour toute la famille, donc plusieurs bouches à nourrir. Est-ce qu'il y a des petits trucs que l'on peut se donner?
Je pense que, de toute façon, comme je vous le disais, c'est pas nécessaire de se tourner vers des aliments biologiques. On peut acheter des fruits et des légumes de saison, on les amène à la maison et on les nettoie. Et de toute façon, que les légumes ou les fruits soient biologiques ou non, il faut les nettoyer quand on revient à la maison, puis pas juste pour les pesticides, pour les bactéries et tout ce qui se retrouve dessus. Donc, on nettoie les fruits et les légumes déjà en les passant sous l'eau et en les frottant, on enlève une partie des pesticides qui se retrouvent sur les fruits et les légumes. On peut décider aussi d'enlever la pelure parce qu'il y a beaucoup de pesticides qui peuvent se retrouver dedans, mais c'est certain que c'est un peu une lame à double tranchant dans le sens où les pelures souvent contiennent aussi beaucoup de nutriments.
Oui,
donc,
c'est ça.
donc, moi, personnellement, mon conseil numéro un, c'est manger des fruits et des légumes de saison. Si c'est possible, tournez-vous vers des produits biologiques si vous le voulez et si votre portefeuille vous le permet. Mais simplement de nettoyer des fruits et des légumes, c'est certain que c'est bon pour votre santé d'en consommer. Il ne faut pas avoir peur de ça.
Oui. Est-ce que de les faire cuire peut également être une bonne idée si, bien sûr, là, le fruit ou le légume le permet?
Bien, encore une fois, c'est que oui, si par exemple on fait cuire dans beaucoup d'eau des légumes, c'est certain qu'il y a une certaine quantité des pesticides qui vont se retrouver dans cette eau de cuisson-là et qui vont être jetés, mais par le fait même, il y a aussi des nutriments qui vont être jetés. Donc, c'est pour ça que c'est toujours une espèce de question de, on perd un peu de pesticides, mais si on perd beaucoup de nutriments, c'est pas mieux. Donc, pour moi, le conseil numéro un, si on veut diminuer ces pesticides, c'est on fait simplement les passer sous l'eau. C'est le plus simple.
Est-ce qu'il y a, Bernard, certains pays, parce que évidemment, quand on est à l'épicerie, de plus en plus, c'est une bonne chose, on regarde ce que l'on achète, ce que l'on met dans le panier, on regarde la provenance de nos fruits ou de nos légumes. Est-ce qu'il y a des pays, peut-être, qui font moins attention à ça, que l'on devrait éliminer?
En fait, c'est certain que ce n'est pas la même réglementation partout dans le monde. Il y a des pesticides, par exemple, qui sont utilisés dans certains pays qui sont interdits ici. Ceci étant dit, Santé Canada fait des analyses sur les lots d'aliments qui arrivent au Canada. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire entrer n'importe quel aliment ou n'importe quel pesticide au Canada. Il faut les faire tester. Et donc, si on retrouve des substances qui sont interdites par le Canada, bien, ça ne pourra pas être vendu ici.
OK. Bon, donc ça, excellente chose à savoir. Bernard Lavallée, bien, on continue à manger des fruits et des légumes. Et puis, si c'est bon pour nous, c'est bon aussi pour nos enfants. S'ils sont petits, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure non plus de leur consommation d'insecticides ou de pesticides.
Pas du tout. Pas du tout. Il faut vraiment manger le plus possible de fruits et de légumes de toutes les couleurs et utiliser différentes méthodes de cuisson et en manger cru. Et c'est comme ça qu'on va aller chercher tous les nutriments possibles et être en santé.
Et en plus, c'est la belle saison qui s'en vient. Donc,
oui.
On pourra en profiter pour manger là, ces légumes-là qu'on peut même faire pousser à la maison. Là, on est sûr de la provenance. Hein?
C'est certain. Et si on produit nos propres aliments, bien, on sait ce qu'on a mis dessus et on sait ce qu'on a mis dans la terre. Et donc, c'est un gage de sécurité, c'est certain.
Bernard Lavallée, vous êtes également le nutritionniste urbain, nutritionnisteurbain.ca. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous parler.
Merci.
Au revoir. Jean-Sébastien Laliberté, la mise en onde, Marianne Paquette au micro. Voilà, c'est confirmé. Fruits et légumes, on s'empêche pas d'en manger, bio ou pas. L'important, c'est d'en manger en grande quantité. Et puis, bien sûr, avec la belle saison qui s'en vient, on pourra se gâter. D'ailleurs, bientôt, on vous proposera un sujet sur les paniers de fruits et légumes bio avec Isabelle Joncaille, qui est agronome du côté d'Équiterre. C'est maintenant le temps de se laisser. Vous pouvez nous réécouter en rediffusion à 17h et nous suivre sur Twitter, Facebook. Toujours un plaisir de vous lire ou de vous entendre. On se donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.